en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Nos connaissances sur la formation des grands disques des galaxies spirales ont été révolutionnées par les derniers résultats en provenance des grands télescopes. Il y a 6 milliards d'années, la plupart de ces disques n'étaient pas formés et les galaxies avaient des morphologies et des dynamiques fort chaotiques. C'est ce que nous explique François Hammer dans cette conférence du Bureau des Longitudes donnée en décembre 2010. Il compare notre galaxie à celle d'Andromède qui a subi une fusion entre galaxies il y a donc 6 milliards d'années. François Hammer est astronome à l'Observatoire de Paris-Meudon. Vous allez pouvoir l'écouter dans quelques instants. Pour suivre ses explications, nous vous invitons à télécharger le support visuel de sa conférence que vous retrouverez sur le site de Canal Academy. Tout de suite, François Hammer.
Je pense que vous m'entendez tous et toutes. Je vais avoir le plaisir, en fait, effectivement, de discuter avec vous les grandes questions qui se sont posées sur la formation des grandes spirales. Parmi ces grandes spirales, vous en connaissez une très bien, c'est la nôtre, notre Voie lactée. Nous sommes au bord du disque de la Voie lactée. Vous en voyez une autre sur cette image, qui est la grande galaxie d'Andromède, notre grande voisine. Et je discuterai aussi à la fin de mon exposé un petit peu les nouvelles découvertes sur ces deux objets qui nous tiennent beaucoup à cœur, bien sûr, puisque nous en sommes très proches. La première chose dont il faut parler lorsqu'on discute des galaxies spirales et de leur formation, de leur origine, comment ces objets se sont formés, quelle est la nature de leurs progéniteurs, la première chose, c'est évidemment d'étudier leur structure. Toutes ces galaxies ont des structures communes. En particulier, elles ont toutes un centre avec un bulbe, que vous voyez ici, par exemple, ou ici, et ensuite un disque géant qui contient donc des étoiles comme la nôtre, le Soleil qui se trouve à peu près typiquement à 8-9 kiloparsecs du centre, c'est-à-dire vous multipliez par 3 pour avoir le nombre de milliers d'années-lumière. Nous sommes à peu près à 30 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Alors un point très important sur la structure de ces objets, c'est que ces objets montrent, on le voit simplement sur ces images, montrent un mouvement de rotation. Tous ces disques sont en rotation rapide et nous-mêmes, nous tournons à très grande vitesse, 220 km par seconde, autour du centre de la Voie lactée. Et ces mouvements ont eu un impact considérable sur l'astronomie moderne. Dès 1937, Fritz Zwicky a montré que le simple mouvement des étoiles autour des galaxies spirales, dont la nôtre, était beaucoup trop rapide et impliquait l'existence d'une autre matière que la matière que l'on voyait, c'est-à-dire les étoiles, le gaz, la poussière. Donc ça, c'est une découverte en 1937. Au début, personne ne l'a cru. C'est intéressant de le noter pour l'histoire des sciences. Et puis maintenant, c'est devenu un dogme. Vous en avez tous entendu parler du dogme, bien sûr, de la matière sombre, de la matière noire, de la masse cachée, etc. Une grande galaxie spirale telle que la nôtre, puisque nous habitons dans une grande galaxie, fait 100 000 années-lumière de long. Il faut 100 000 ans à la lumière pour la parcourir. C'est considérable. Par contre, elle ressemble à une gigantesque assiette plate parce que son épaisseur n'est que de quelques milliers d'années-lumière. Quelles sont les incidences sur la masse sombre? Pour vous le décrire, la première chose qui a été faite, et ça c'était au début du siècle dernier, c'était ce qu'on appelait la cinématique haute résolution des galaxies, à partir desquelles on pouvait mesurer, selon l'endroit où on plaçait les fentes, à l'époque il s'agissait de fentes, maintenant je vous montrerai de nouvelles techniques, on pouvait mesurer à différents points de la galaxie la vitesse et donc la rotation du système. Comme je le vous disais précédemment, les galaxies spirales tournent trop vite. Les étoiles tournent trop vite, en particulier les étoiles au bord de ces galaxies. Il se trouve que notre Soleil est une étoile qui est quasiment au bord du disque. On est presque au rayon optique de notre propre galaxie. Alors les courbes que vous voyez ici vous montrent très simplement la relation entre la vitesse et le rayon. Vous montrent les points en pointillés. Vous avez ce qui est observé, mesuré, en particulier en général grâce à des mesures qui sont faites dans le gaz, parce que le gaz va beaucoup plus loin que les étoiles. Et puis ce que vous voyez ici, c'est la courbe de rotation que vous devriez avoir si vous ne comptiez que la masse des étoiles et la masse du gaz. Donc il nous en manque, c'est la masse manquante. La façon la plus simple que les astronomes ont trouvée pour expliquer et pour essayer de comprendre les rotations des galaxies, les courbes de rotation des galaxies. C'était d'imaginer, évidemment, que cette masse manquante se trouve à l'extérieur, puisque c'est à l'extérieur qu'il nous en manque. C'est à l'extérieur qu'on doit compenser la vitesse de rotation des étoiles et du gaz. Et c'est de là d'où vient la notion de halo massif de galaxies, c'est-à-dire une répartition d'une masse qu'on ne connaît pas à l'extérieur de ces gigantesques structures que sont les galaxies. Alors, un point très important, on ne peut pas ne pas penser à l'existence d'un masse cachée, parce que s'il n'y avait pas de masse cachée, notre propre Soleil, au bout de quelques tours, se serait échappé de la galaxie. Donc c'est une notion quand même assez forte. On est obligé de la prendre en compte. C'est quand même effectivement très important. Il faut penser que notre propre Soleil a fait déjà une vingtaine de tours depuis sa naissance. Et ce n'est pas la seule évidence. La seconde évidence de la masse sombre est née à peu près à la même époque, du point de vue théorique, et observationnellement bien plus tard, ce sont les lentilles gravitationnelles. Alors, les effets de lentilles gravitationnelles sont des effets liés à la relativité générale, impliquant simplement que la matière et la lumière sont affectées de la même façon par la gravitation. Donc, ce qui se passe lorsque vous avez une source qui se trouve en arrière-plan d'une masse, la galaxie, la lentille, ici, cette source, la lumière provenant de cette source va être déviée par la masse, due à la relativité générale, et effectivement va pouvoir trouver, si elle est parfaitement alignée avec la masse, va pouvoir trouver plusieurs chemins pour atteindre l'observateur. Les chemins sont indiqués sur cette figure. La première découverte a été faite avec ce qu'on appelait le quasar double, un quasar dont la séparation était à peu près 8 arcs secondes, qui a été découverte par des astronomes américains. Et depuis, on ne compte plus les découvertes. En particulier, en 1985, et c'est une aventure à laquelle j'ai participé de très très près. En fait, j'ai fait les premières modélisations de ces objets, qui sont les arcs lumineux. Alors, je vais vous montrer la plus belle image, qui j'espère vous impressionnera. Vous voyez ces grandes structures allongées, qui correspondent en fait à la déformation de la lumière de sources, qui sont des galaxies très lointaines, par des amas de galaxies, bon, par des énormes masses. En modélisant ce type d'effet, on arrive comme ça à reconstruire et à déterminer quelle est la quantité de masse qu'il y a dans ces amas. Alors de tout ça, on peut faire un bilan. Et le bilan est le suivant. C'est approximativement, quelles que soient les grandes structures, parce qu'on parlera aussi des galaxies naines, qui sont un autre problème, quelles que soient les grandes structures, que ce soit des grandes galaxies spirales, que ce soit des grandes galaxies elliptiques ou que ce soit des amas de galaxies, dans tous les cas, on trouve à peu près de 5 à 15, 5 à 20 fois plus de matière sombre que de matière visible. Ces mesures sont toutes indirectes, vous le comprenez. Elles sont dues à la vitesse de rotation des étoiles ou du gaz dans des galaxies spirales. Elles sont dues à la déformation de la lumière par la masse des galaxies elliptiques ou des amas de galaxies. Et le cas des amas de galaxies est à noter parce que les premières mesures qui avaient été faites, on avait pensé au démarrage qu'il y avait vraiment beaucoup de matière sombre. Il y a effectivement beaucoup de matière sombre par rapport à la matière dite visible, celle qui correspond en fait au contenu des galaxies de l'amas, en étoiles et en gaz. Mais il se trouve qu'il y a dans les amas un autre contributeur à la masse qui est très important, c'est un gaz chaud qui rayonne en émission X, qui correspond en fait à du gaz arraché aux galaxies au moment où elles sont tombées dans l'amas, et en fait qui représente une quantité de matière beaucoup plus grande que celle de toutes les étoiles qui sont dans les galaxies de l'amas. In fine, on retrouve à peu près cette quantité de matière sombre, c'est-à-dire l'univers est dominé par la matière sombre. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas présenter ce transparent, bien que c'est un transparent qui ne vous donne pas beaucoup de réponses. Évidemment, on s'est posé la question de quoi est faite la matière sombre. La première tentative de réponse a été faite non pas par les astronomes, ni les astrophysiciens, mais par les physiciens des particules, qui se sont lancés dans une expérience très ambitieuse. En travaillant sur des petits télescopes, ils ont essayé de vérifier si la matière sombre pouvait être constituée de planètes, comme la nôtre, de petits trous noirs, de corps de relativement petite taille et de masse importante. Ces corps-là, par définition, sont invisibles. Notre propre Terre a un albédo extrêmement faible, donc elle a très peu de luminosité intrinsèque. Donc par définition, ces objets-là pouvaient être des bons candidats pour la masse manquante. Alors excusez-moi mesdames, le nom qu'ont choisi les physiciens des particules pour cette expérience, c'est Macho. C'est pas un très beau nom. Mais rassurez-vous mesdames, cette expérience a raté, dans le sens où cette expérience n'a pas trouvé de matière sombre ou des fractions extrêmement faibles de matière sombre dans l'univers. Aujourd'hui, les principaux résultats de l'expérience Macho et des expériences qui ont suivi sont plutôt d'étudier les étoiles variables. Donc, ce ne sont pas de petits corps invisibles. Et je pourrais vous expliquer un petit peu sur quelle base Ces expériences ont été faites, c'est sur une fluctuation de lumière associée à l'effet gravitationnel de ces petits corps. C'est ce que je vous ai expliqué sur les lentilles gravitationnelles. Alors on s'est posé la question, et cette question reste encore un petit peu ouverte, d'essayer de trouver du gaz, en particulier du gaz ayant extrêmement peu d'émissions ou d'absorption, extrêmement peu de signal. Le gaz neutre est bien répertorié dans l'univers. Le gaz moléculaire un peu moins bien. On a besoin en particulier d'aller à des longueurs d'onde plus proches de l'infrarouge, et en particulier voir le millimétrique. Mais au vu des détections actuelles, on ne peut pas espérer gagner mieux qu'un facteur 2 par rapport à la masse visible connue. Donc il nous reste toujours un facteur de l'ordre de 10. Donc la question de la matière sombre reste entière. Alors vous avez tous entendu parler des tentatives des physiciens des particules, en particulier sur les grands accélérateurs. Vous avez tous entendu parler du LHC en particulier, qui se trouve sur les territoires suisses et français. L'autre idée, évidemment, est d'imaginer que la matière sombre soit constituée de particules extrêmement massives, extrêmement peu interactives, d'où leur nom WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles, qui auraient le bon goût, évidemment, de se retrouver autour de nous sans que l'on puisse en voir les effets. Pour vous donner un exemple, il devrait y avoir par tasse de café à peu près un WIMP, si, pour expliquer la matière sombre. Donc dans ce verre, il devrait y avoir un WIMPs. Pour l'instant, il y a de l'eau seulement. Les énergies que l'on doit atteindre pour essayer d'expliquer, pour essayer de former des WIMPs, sont des énergies colossales. Même le LHC ne peut pas les atteindre. On espère que le LHC atteint le boson de Higgs, qui est une des particules. C'est une des clés pour découvrir l'existence ou non de ces particules massives. Alors d'autres astronomes ont des visions encore plus ambitieuses. C'est plutôt des astronomes d'ailleurs que des physiciens. En se posant la question, on pourrait peut-être résoudre la question de la masse sombre en disant qu'il n'y a pas de masse sombre, et simplement de changer les lois de la physique, en supposant que dans GM, le produit GM, en fait vous ayez besoin, non pas de changer M, mais de changer la constante gravitationnelle. Alors c'est une théorie qui a eu beaucoup de succès, Milgrom est une des personnes qui a lancé ça. Ça s'appelle le MONDE, Modified Newtonian Gravity. Cette théorie explique pas mal de choses, effectivement. Elle a un nombre de succès non négligeable, en particulier sur les lois d'échelle entre galaxies, des lois qu'on appelle des relations fondamentales entre les galaxies. Elle les explique relativement bien. Elle a un peu plus de difficultés aujourd'hui à expliquer l'antigravitationnel, mais je pense qu'ils y arriveront, ça ne devrait pas être trop difficile. Par contre, le défaut principal, évidemment, de toute nouvelle théorie, c'est qu'elle doit expliquer tout ce qu'explique la relativité générale. Bon courage. Revenons maintenant à des choses un peu plus simples, quelque part, qui est la formation des galaxies, et en particulier le modèle qui est actuellement le modèle le plus en vogue sur la formation de ces objets, comment les galaxies se sont formées. La théorie et les observations, en particulier les observations du premier objet de l'univers, qui sont les observations du corps fossile qui a émis sa lumière lorsque l'univers avait 300 000 ans, montrent un univers qui était complètement lisse. Maintenant, avec les nouveaux satellites qui ont été envoyés pour observer cette émission extraordinaire, vraiment le premier balbutiement de l'univers, on est capable de dire que les premières échelles dans l'univers étaient relativement petites. On pense à des tailles qui sont de l'ordre d'amas d'étoiles. Donc pour expliquer les grandes galaxies, la façon la plus logique est de dire qu'elles se sont accumulées les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'elles ont fusionné au fur et à mesure les unes avec les autres, d'où le nom formation hiérarchique des galaxies. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un simple schéma de ce qu'on appelle un arbre de fusion, dans lequel vous voyez des galaxies petites au départ, qui au fur et à mesure de leur rencontre, vont donner des objets de plus en plus grands. Alors nous-mêmes, nous sommes très concernés, puisque nous vivons, je le répète, dans une galaxie qui est de grande taille. Donc avec le temps, on peut imaginer qu'au fur et à mesure, les petites galaxies deviendront grandes au fur et à mesure de leur rencontre. Évidemment, ces modèles fonctionnent et sont utilisés dans les grands calculateurs, calculateurs qui essayent de simuler l'ensemble de l'univers, et essayent, effectivement, on peut retrouver les différents arbres de fusion des différentes structures, et on arrive à reproduire à peu près correctement ce qu'on appelle les grandes structures. Mais les grandes structures bien au-delà de la taille des galaxies. On a beaucoup plus de difficultés, et c'est la question de la formation des galaxies, à reproduire les galaxies que nous connaissons. Mais on commence à faire des progrès. Tous ces modèles sont basés, bien sûr, et il faut le noter, c'est très important, sur l'existence autour de chacune de ces galaxies, depuis le début, de halos de matière sombre. En fait, ce que vous voyez, la boule en vert correspond en fait au halo, et en bleu, vous voyez en fait une galaxie qui est en disque, qui est insérée dans son propre halo. Lorsque deux galaxies se rencontrent, les deux galaxies que nous connaissons, les galaxies que nous voyons, d'accord, elles commencent juste à interagir l'une avec l'autre pour fusionner. Et dans le cas où ces deux galaxies n'ont pas de gaz, le résultat est généralement la formation d'un ellipsoïde. Une façon de vous le dire, c'est que l'ensemble, et vous allez le voir dans une simulation, l'ensemble des étoiles de ces deux galaxies vont tomber dans un pot commun dans le centre à cause des frottements, de la friction dynamique qui va faire tomber l'ensemble de ces des structures dans un centre commun. Alors ce que vous voyez ici, c'est une tentative de simulation qui a été faite pour essayer de reproduire ce qui va se passer dans 4 ou 7 milliards d'années, excusez-moi de l'imprécision, je vous expliquerai pourquoi, qui va former en fait in fine une masse un peu informe, comme vous voyez, qui va être en fait un ellipsoïde, qui donnera une galaxie qu'on appelle soit galaxie elliptique, soit une galaxie dite lenticulaire. Alors juste pour vous dire l'imprécision des 4-7 milliards d'années, nous connaissons parfaitement la vitesse à laquelle s'approche la galaxie d'Andromède. Je dirais peut-être que c'est plutôt nous qui nous rapprochons, parce qu'elle est un peu plus grosse que nous. C'est 120 km par seconde. Mais par contre, ce que nous ne connaissons pas, c'est la vitesse tangentielle. Cette vitesse est toujours complètement inconnue. On a quelques contraintes sur cette vitesse et des contraintes qui pourraient être mises en cause à brève échéance. Donc nous connaîtrons la vitesse tangentielle, évidemment dans un mouvement. Hein, vous imaginez, vous avez deux corps. Si les deux se rapprochent comme ça, évidemment, ils vont tomber dedans. Ça, c'est le 4 milliards d'années. Et par contre, si les deux objets font comme ceci, évidemment, ça va être beaucoup plus de temps, vous vous en doutez. Et ça, ça correspond à éventuellement 7 milliards d'années. Il y a même des cas, on pourrait imaginer des cas où elles ne finiraient pas par fusionner. On espère trouver, en fait, la vitesse tangentielle dans les 10 prochaines années. Donc, vous voyez, c'est à suivre. Soit par le satellite Gaïa. Gaïa pourra mesurer, Gaïa qui doit être lancé en 2012, va mesurer extrêmement précisément les positions en 3 dimensions d'un milliard d'étoiles, dont un certain nombre dans M31, les étoiles les plus importantes, et au bout de 5 ans, devrait espérer avoir une première mesure de la vitesse tangentielle. Une autre possibilité, c'est de mesurer les masers, et c'est très récent, ça date de la semaine dernière, on vient de découvrir des masers dans la galaxie d'Andromède. Donc, tous les espoirs sont permis. Alors, maintenant, le sujet que je veux vraiment aborder, c'est le sujet de la formation des grands disques. Pourquoi ? Les galaxies elliptiques, nous savons les former, elles se forment effectivement par fusion. C'est maintenant quelque chose qui est bien accepté par l'ensemble des astronomes et qui a été accepté en particulier grâce aux efforts de plusieurs équipes américaines. Mais cependant, ce n'est pas tout les galaxies elliptiques parce que la majorité des galaxies que nous connaissons, et en particulier des grandes galaxies, sont des galaxies spirales comme la nôtre. Et en fait, ça atteint jusqu'à 72% des galaxies. Alors, je vous le répète, hein, ces galaxies, vous pouvez les voir comme des immenses assiettes qui tournent, d'accord, à très grande, trop grande vitesse. Et évidemment, des assiettes, c'est fragile. Et le problème, je vous ai parlé d'un univers où il y avait des collisions entre galaxies, donc système hiérarchique, et en fait, les disques de ces grandes galaxies sont extrêmement fragiles aux collisions. Si vous faites une rencontre entre une grande galaxie spirale, cette grande assiette, et un petit caillou qui fait à peu près le cinquième de sa masse, les chances de conserver le disque de la galaxie initiale sont presque nulles. Donc en fait, le scénario hiérarchique semble en contradiction, et c'est là où on arrive à quelque chose d'important, avec l'existence de tous ces disques minces. Pour cela, et ça c'était vraiment un travail qui avait été fait dans les années 60 d'ailleurs, on était parti des connaissances qu'on avait de notre propre galaxie, la Voie lactée. On a mis en place en fait une théorie qui s'appelle en anglais la tidal torque theory, c'est-à-dire c'est la théorie des interactions de marée. L'idée était la suivante. Lorsqu'une galaxie tourne en fait, elle acquiert ce qu'on appelle son moment angulaire, qui est vraiment cette quantité qui est absolument fondamentale pour expliquer qu'un objet peut être en rotation et pour expliquer un grand disque. Donc l'idée, c'était que les galaxies, dans un passé très lointain, avaient acquis leur moment angulaire, avaient acquis leur rotation, parce que dans le passé, l'univers était beaucoup plus petit, les interactions étaient beaucoup plus nombreuses, et donc le mouvement angulaire global, la rotation globale qui s'exerçait due aux interactions entre galaxies, était plus importante qu'aujourd'hui, et pouvait potentiellement expliquer pourquoi il y avait autant de galaxies disques. Bien sûr, ça se passait au premier milliard ou deuxième milliards d'années après le Big Bang, donc très tôt dans l'univers. Et l'idée, évidemment, c'est que ces disques galactiques devaient survivre, c'est-à-dire de ne pas subir de collision, jusqu'aujourd'hui, pour présenter les formes que nous connaissons bien, les grandes galaxies spirales actuelles. Ce scénario s'appelle le scénario qu'on appelle séculaire. C'est un scénario dans lequel on découvre en fait un univers où finalement les fusions entre galaxies ne sont pas si importantes puisqu'elles expliquent essentiellement les grandes galaxies elliptiques. Depuis 1980-90, les théoriciens ont commencé à développer cette fois des méthodes numériques. Les ordinateurs ont commencé à devenir des outils de plus en plus puissants. Et bien sûr, on n'a pas été capable de modéliser les 100 milliards d'étoiles d'une galaxie, en faisant pour chacune de ces étoiles une particule. Mais on réussit maintenant, enfin en tout cas déjà dans les années 80, on réussissait à faire des modèles avec plusieurs dizaines de milliers de particules pour modéliser une galaxie. On a évidemment essayé de modéliser et de voir si la théorie dont je vous parle, cette théorie donc basée sur les mouvements, sur les effets de marée dans un passé lointain, était crédible. Le résultat s'appelle la catastrophe du spin, ou la catastrophe du moment angulaire. Et en fait, ce que vous voyez à gauche, c'est les observations. Le vecteur que vous voyez, c'est le vecteur moment angulaire. Et ce que vous voyez à droite, ce sont les simulations. En fait, si vous voulez former des galaxies seulement à partir des mouvements, des interactions entre les galaxies dans un passé lointain, vous allez pouvoir former des petits disques. Reste entière la question de la formation des grands disques. Je vous rappelle, la Voie lactée est un grand disque. Pour cela, la meilleure façon, évidemment, c'est d'aller visiter le passé de l'univers. Les astrophysiciens ont une chance formidable, et les cosmologistes encore plus. C'est parce que lorsque vous observez les galaxies les plus lointaines, ces galaxies ont émis leur lumière dans un passé très lointain. Il y a un principe en cosmologie auquel tous les physiciens obéissent, qui s'appelle le principe cosmologique, qui décrit simplement l'univers, et il est extrêmement bien soutenu par les observations, parce que nous avons un univers homogène isotrope, quel que soit l'endroit où vous êtes, d'accord, vous n'êtes pas représentatif de l'univers, tous les endroits de l'univers sont représentatifs. Donc lorsque vous allez observer des galaxies lointaines, vous allez observer des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 5, 6, 7 milliards d'années, par exemple. Ces galaxies vont être identiques aux ancêtres des galaxies que nous connaissons aujourd'hui. C'est le principe cosmologique. Donc, visiter l'univers et découvrir grâce à des télescopes très puissants les objets les plus lointains, c'est dévoiler le passé de l'univers. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est certains d'entre vous ont certainement vu ce montage. C'est un montage qui a été fait par la NASA, qui décrit simplement... La première image que vous voyez, c'est une image qui est faite avec un petit télescope. Donc, vous voyez simplement des étoiles et à peine quelques galaxies. Puis au fur et à mesure, on va remonter, en fait, on va aller voir des sources de plus en plus faibles qui, en règle générale, sont aussi de plus en plus lointaines. Et en fait, ce que vous voyez, c'est la superposition d'images de plus en plus profondes faites avec des télescopes de plus en plus grands jusqu'à arriver à l'image qui a été faite la plus profonde qui existe, que l'homme ait jamais faite, qui est une image qui a été faite par le télescope spatial pendant plus de 200 heures d'observation. Alors, ce que vous voyez, les petits ronds qui apparaissent, correspondent en fait aux galaxies les plus lointaines que l'homme ait jamais pu mesurer, qui sont tellement lointaines que leur vitesse est très proche de nous, quasiment à la vitesse de la lumière, ce qui explique en fait leur couleur rouge, l'ensemble de leur spectre est rougi, décalé vers le rouge. Récemment, un chercheur de mon laboratoire a découvert probablement la galaxie la plus lointaine qui se trouve à une époque où l'univers avait quelques centaines de millions d'années. Alors ces images sont extrêmement impressionnantes. Elles prouvent que dans notre univers, nous avons 100 milliards de galaxies qui chacune a à peu près 100 milliards d'étoiles. C'est un endroit où les astronomes font mieux que les banquiers. À noter aussi un point important, c'est très intéressant, bien sûr, d'aller découvrir les objets les plus lointains, et ça a toujours été un peu le côté très humain d'aller essayer de défricher ce qu'on n'a jamais vu, c'est extrêmement important. Les galaxies les plus lointaines, vous ne pouvez pas dire grand-chose. En fait, vous voyez un point. Avec un point, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, les galaxies un peu plus proches vont nous apprendre énormément sur le passé de l'univers. Si on utilise les meilleures images, justement, du télescope spatial, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les galaxies sont structurées comme des grandes galaxies spirales, alors qu'il y a 5 à 8 milliards d'années, la majeure partie de ces galaxies montre parfois des structures qui ressemblent à des spirales, souvent un peu déformées, ou alors qui ne ressemblent plus à rien du tout. En fait, on s'aperçoit que ces objets aussi ont une autre propriété importante, c'est qu'aujourd'hui, les galaxies ne font pas beaucoup de baby-boom, c'est-à-dire elles ne forment pas énormément d'étoiles. Notre galaxie a 100 milliards d'étoiles, elle en forme une par an, un soleil par an, c'est pas beaucoup. Les galaxies dans le passé formaient de 100 à 200 fois plus d'étoiles, donc on avait beaucoup plus de formations stellaires dans le passé. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé une question assez fondamentale. On s'est posé la question de ce qu'on appelle la séquence de Hubble. La séquence de Hubble vous décrit les galaxies, et elle a été établie par Edwin Hubble en 1926. Elle vous montre comment les galaxies peuvent être organisées, les galaxies actuelles, celles que nous connaissons aujourd'hui, en partant de la gauche, les elliptiques, indiquées par le symbole E. Ensuite, les elliptiques dont la majorité des étoiles suivent des trajectoires qui sont désorganisées, qu'on appelle supportées par la dispersion, qui sont au hasard, si vous préférez, et qui sont inscrites dans un espèce de gigantesque ballon de football ou ballon de rugby, donc un ellipsoïde. Ensuite, il y a les galaxies un petit peu plus sur la droite, les galaxies qui sont appelées S0, qu'on appelle les galaxies lenticulaires, qui, elles, ont les mêmes propriétés que les galaxies elliptiques, excepté que ce bulbe s'inscrit dans un petit disque, un disque de relativement petite taille. Et puis ensuite, vous voyez sur la droite, tout l'ensemble des galaxies qu'on dit les galaxies spirales, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui incluent un bulbe de plus en plus petit au fur et à mesure que vous allez de plus en plus vers la droite, et évidemment un disque géant. On voit l'existence d'une barre au centre, ça s'appelle des galaxies barrées. Il n'y a pas de différence fondamentale, a priori, entre ces deux types de galaxies. Donc, pour résumer, l'écrasante majorité des galaxies sont des galaxies spirales. Il y a aussi des elliptiques et des S0 et des lenticulaires, et quelques-unes ont des formes qu'on appelle particulières. Alors, avec beaucoup d'efforts, parce que ce n'est pas simple, on a essayé de faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'utiliser exactement les mêmes méthodes pour sélectionner, visualiser, mesurer les objets qui sont aujourd'hui, la séquence de Hubble actuelle, les objets que vous voyez ici, et les objets qui ont émis leur lumière il y a 6 milliards d'années. Et la surprise, c'est que la séquence de Hubble a bien changé. En particulier, apparaissent une catégorie qui est infime aujourd'hui, une grande partie des galaxies dans le passé, il y a 6 milliards d'années, avaient des formes extrêmement particulières, en fait typiquement inclassables. Alors il faut encore aller plus loin. Les images, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour un astrophysicien. Un astrophysicien, il veut comprendre aussi les mouvements. Pour étudier les mouvements, depuis les années 70, en fait, je dois rendre aussi un hommage d'ailleurs à Christian van der Rist, hein, qui a inventé une technologie de pointe. Les astrophysiciens ont besoin de faire de la spectroscopie. Et en fait, on a besoin de faire mieux que la spectroscopie du début du XXe siècle, ça vous le comprendrez. On a besoin de faire de la spectroscopie qu'on appelle la spectroscopie 3D. Et c'est Christian van der Rist qui a inventé cette technique à l'Observatoire de Paris. Un instrument dont j'étais responsable, qui a été monté en 2002 sur le Very Large Telescope au Paranal, sur la seconde unité de ce télescope, télescope de 8 mètres de diamètre. Et ce système est assez complexe, il est à fibre, et il permet, ce que vous voyez sur l'image au centre, il permet en fait de mesurer pour chaque galaxie des spectres sur chacun des points, sur chacun de ces petits carrés, hein, qui sont des micro-lentilles, on est capable de mesurer et de récupérer un spectre. Grâce à ça, on peut avoir les mouvements d'ensemble de l'objet. On peut faire extrêmement précisément comprendre quels sont les mouvements internes d'un objet. Voilà le résultat. Ça ne s'est pas fait en un jour, hein, rassurez-vous, ça a mis 8 ans au total. Les résultats sont les suivants. Ce que vous voyez en haut, c'est un objet qui ressemble beaucoup à une galaxie spirale, sur lequel on a mis justement ce système d'intégrale de champ. Et ce que vous voyez immédiatement à droite, c'est ce qu'on appelle le champ de vitesse. Ce qui est en bleu se rapproche de nous, ce qui est en rouge s'éloigne de nous. Et en fait, c'est que cette galaxie tourne simplement. Donc ce qui est en bleu se rapproche de nous, ce qui est en rouge s'éloigne de nous, donc elle tourne bien le long de son axe. Pour compliquer un tout petit peu, Quand vous tournez autour de votre axe, ça veut dire qu'au centre, vous avez un très grand changement de vitesse. Lorsque vous allez essayer de mesurer la dispersion, vous allez trouver, pour une galaxie comme celle-ci, vous allez trouver un pic de dispersion qui est le point rouge que vous voyez sur l'image, qui est à peu près central ici, ce qui correspond à sigma, à la dispersion. Ce point-là vous indique une seule chose. Vous avez une galaxie qui tourne et son centre est bien en son centre. Ce n'est pas complètement anodin. Imaginez que ça vous arrive sur une bicyclette. Si le centre n'est pas exactement au centre, vous cassez la figure. La ligne en dessous vous montre justement ce cas, parce qu'il est observé, où il y a ce qu'on appelle une rotation perturbée. C'est-à-dire que la galaxie montre bien un champ de vitesse avec une rotation. Vous voyez que le champ de vitesse est du même type. Il y a une partie qui s'éloigne, une partie qui se rapproche, elles sont assez symétriques. Par contre, le pic, ce qui indique le centre de masse, n'est plus au centre de masse. Donc il y a perturbation. Ce que vous voyez encore, la dernière image que vous voyez en dessous, elle vous montre un cas où plus rien ne marche. Ça ne tourne plus, ça ne tourne pas rond, et ça ne tourne pas du tout, plus simplement. Ce qu'on appelle des cinématiques dites complexes. Le bilan pour les galaxies donc, qui ont émis leur lumière il y a 6 milliards d'années, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de rotation ordinaire. Il y a majoritairement des cinématiques qui ne sont pas normales. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, quand on fait de la statistique, il faut bien tenir compte de tout. Tout ce que je vous ai montré a été fait sur les raies d'émission. Les télescopes actuels ne sont pas capables d'observer les raies d'absorption de ces objets, donc sur le gaz. Et il y a des objets qui ont peu de gaz, y compris à cette époque. Lorsqu'on tient compte de tout ça, on peut faire maintenant un premier bilan de ce qui s'est passé et de l'évolution du diagramme de Hubble et donc de l'évolution des galaxies spirales dans l'univers. La première chose qu'on peut dire, c'est que les galaxies elliptiques et les galaxies lenticulaires, dans leur majorité, étaient présentes il y a 6 milliards d'années. Ce ne sont pas elles qui ont évolué, ce ne sont pas elles qui ont changé. Elles ont pu gagner de la masse, elles ont pu gagner de la matière, mais elles n'ont pas fondamentalement changé du point de vue de la distribution des galaxies dans l'univers. Bien sûr, par contre, on peut dire que la moitié des ancêtres des galaxies spirales ont des morphologies et une dynamique, une cinématique qui est anormale. D'une part, elles ont des morphologies extrêmement perturbées, qui ne ressemblent plus à grand-chose, et d'autre part, elles ne tournent pas rond ou pas du tout. Ce qui nous a conduit, en fait, à faire l'hypothèse que les galaxies spirales suivaient la formation hiérarchique de la même façon que les galaxies elliptiques. Je vais vous expliquer comment. La première chose, c'est que les simulations ont fait des progrès considérables dans les dernières années avec des calculateurs de plus en plus puissants. Je vous ai parlé de 10 000 particules dans les années 80. Aujourd'hui, dans un laboratoire comme le mien, on est capable de faire jusqu'à une dizaine de millions. Avec les calculateurs les plus puissants, on peut dépasser ce chiffre. Évidemment, il faut attendre un certain temps. Certaines simulations que nous avons faites ont duré un mois. Il faut savoir être patient. Le temps dans l'univers est une échelle quelque peu vaste. Un point extrêmement important, les premières simulations à l'époque avaient été faites en faisant l'hypothèse que les objets, les galaxies, ne contenaient que des étoiles. De façon approximative, c'est vrai pour notre Voie lactée ou pour la galaxie d'Andromède. Dans la galaxie d'Andromède, 6% de la masse, qu'on appelle la masse baryonique, est du gaz. Notre Voie lactée a approximativement entre 11 et 12% de gaz. Donc négliger le gaz n'est pas catastrophique. Quand vous n'avez pas beaucoup de particules, on peut bien le comprendre. C'est vrai aujourd'hui, mais dans le passé, cela devient complètement faux. Dans le passé, il y avait beaucoup plus de gaz, tout simplement parce que des étoiles sont nées depuis. S'il y a beaucoup de gaz, on doit changer les codes de simulation, qui ne sont plus des codes seulement à n corps, mais qui doivent tenir compte de ce qu'on appelle l'hydrodynamique. Et là, les simulations hydrodynamiques, à condition qu'il y ait du gaz, et vous allez vous en rendre compte par vous-même, lorsque vous avez collision de deux disques, cette collision change fondamentalement la rotation et le moment angulaire de la galaxie, et vous transforme complètement la galaxie, vous brisez le disque des deux galaxies progénitrices, et vous en formez un nouveau. Et ce que vous voyez ici, c'est que les deux galaxies initiales étaient comme ceci, la galaxie finale est comme ceci. Vous avez complètement transformé, vous avez refabriqué un nouveau disque, d'où le nom de la théorie que j'ai proposée, qui s'appelle « Reconstruction des disques après fusion ». En fait, actuellement, toutes les simulations montrent qu'à condition qu'il y ait suffisamment de gaz, et en fait il faut beaucoup de gaz, jusqu'à ce que la fraction de gaz dépasse la fraction d'étoile, vous reformez automatiquement un nouveau disque. La question immédiate, est-ce que ça s'applique aux observations que nous connaissons ? Bien sûr, on va s'intéresser à la moitié des ancêtres des galaxies spirales qui sont des galaxies anormales, qui ont des morphologies anormales, cinématiques anormales. Et le travail que nous avons fait avec notre équipe a été de reproduire l'ensemble de ces objets. En fait, ça correspond à peu près à une cinquantaine d'objets. Alors, voici un exemple d'un de ces objets. Certains d'entre vous l'auront reconnu. Alors, je voudrais juste vous donner quelques informations sur cet objet. Cet objet a émis sa lumière il y a 5 milliards d'années. Vous voyez en son centre une barre qui est gigantesque, puisqu'à elle toute seule, cette barre fait à peu près la distance entre le Soleil et le centre de la Voie lactée. Donc c'est immense. C'est une barre qui a une propriété aussi très spectaculaire, c'est qu'en fait elle est peuplée d'étoiles extrêmement jeunes. Donc sa formation est très récente. Est-ce que vous voyez aussi deux points qui semblent, a priori, soit faire partie de la galaxie, soit être déconnectés. En fait, nous avons simulé cet objet pour essayer de reproduire non pas seulement sa morphologie, mais aussi sa cinématique. Et en fait, ce qui se passe lorsqu'une petite galaxie est en interaction avec une grande, vous avez formation d'une barre gigantesque au centre du potentiel. Et finalement, on s'aperçoit qu'on arrive très bien à modéliser et la morphologie particulière de l'objet, mais surtout son champ de vitesse. Et ce champ de vitesse, à nouveau, est un champ de vitesse perturbé, c'est-à-dire qu'il n'est pas le champ de vitesse n'est pas centré sur le centre de la galaxie. C'est à nouveau l'histoire de la roue de vélo qui ne tourne pas rond. Alors, quelques autres exemples d'autres objets pour lesquels, en fait, ce que vous voyez à droite correspond aux observations, ce que vous voyez immédiatement à gauche correspond à la simulation, et ce que vous voyez d'autre côté correspond aux observations et aux simulations des champs de vitesse et des cartes de dispersion. À nouveau, on arrive à contraindre énormément le modèle puisqu'on reproduit et la morphologie et les vitesses internes. Alors l'objet qui arrive juste après est un objet très intéressant parce qu'il ressemble un petit peu en fait à ces fameux arcs lumineux dont je vous avais parlé. Malheureusement, ce n'est pas un arc lumineux et on a évidemment vérifié l'existence de masse ou d'amas de galaxies sur cet objet. L'autre interprétation possible, il semblait que ça pouvait être une galaxie spirale, vous voyez, que vous voyez de côté, hein, simplement. Malheureusement, quand vous regardez, le champ de vitesse montre qu'il est complètement plat. C'est-à-dire que ce serait une galaxie que vous verrez de côté, mais qui ne tournerait pas du tout. Ce qui est fort gênant. Et à nouveau, la seule façon d'expliquer cet objet, c'est que cet objet est en fait à nouveau une barre géante qui a été fabriquée via l'interaction entre deux galaxies. En fait, on arrive à reproduire l'ensemble des galaxies lointaines qui ont des morphologies extrêmement perturbées par de simples effets, des effets d'interaction gravitationnelle forte, puisqu'il s'agit d'aller jusqu'à la fusion de galaxies entre galaxies. Alors tout ça, c'est bien joli, mais c'est notre passé. Évidemment, il serait intéressant de faire un lien avec notre présent. Est-ce que tout ça est bien compatible avec ce que nous connaissons dans notre univers actuel ? Et quel est l'univers actuel que nous connaissons le mieux ? C'est bien entendu les galaxies de notre groupe local. Alors notre groupe local, c'est un ensemble d'à peu près une quarantaine de galaxies. La quasi-totalité de ces galaxies sont des galaxies qu'on appelle des galaxies naines. Ce sont des toutes petites galaxies. Il y a deux objets qui dominent cette distribution. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la Voie lactée, que vous voyez ici, et la grande galaxie d'Andromède. Ces deux galaxies ont approximativement des masses comparables, quoique, par exemple, la Voie lactée, si vous comptez l'ensemble de toute sa masse en gaz et en étoiles, vous arrivez à 55 milliards de fois la masse du Soleil. Si vous faites la même chose pour Andromède, vous trouvez exactement le double. C'est précis, c'est exactement le double. On ne sait pas mesurer aujourd'hui précisément la masse totale de la Voie lactée, incluant la masse sombre, ou la masse totale d'Andromède. Les mesures, les estimations, je dirais, vous permettent d'arriver à des chiffres qui varient entre à peu près 5 à 20 fois ce qu'on appelle la masse baryonique. Notre galaxie, la Voie lactée, a une histoire peu mouvementée. Aujourd'hui, en ce moment, nous sommes en train d'avaler une petite galaxie, mais qui est absolument minuscule. C'est la galaxie du Sagittarius, qui fait beaucoup de sujets d'études, bien sûr, puisqu'on voit en fait cette petite galaxie s'effondrer dans la nôtre, créer un petit courant d'étoiles dans le halo de notre galaxie. Mais c'est une collision infime. C'est bien moindre que si vous rencontriez un moustique, pour vous donner l'exemple. Une autre collision possible, et qui celle-là pourrait être un peu plus importante, c'est la collision avec les deux nuages de Magellan, hein, et que vous voyez aussi sur le disque de la Voie lactée, vous voyez que c'est pas très gros non plus. Par contre, ça se précipite, ces deux nuages se précipitent vers nous à la vitesse fantastique de 1 million de kilomètres heure. Une des grandes questions qui se pose, bien sûr, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la rencontre future possible entre Andromède et la Voie lactée, qui effectivement, pour le coup, là, nous changerait la vie. Qu'en est-il d'Andromède ? Andromède est une galaxie qui a été appelée au début, il y a quelques dizaines d'années d'ailleurs encore, on l'appelait encore comme ça, la jumelle de notre galaxie. Ce n'est pas du tout la jumelle de notre galaxie, et les observations des 10 dernières années l'ont démontré. L'ont démontré ce qu'ont fait les astronomes, et en particulier les Français ont joué un rôle considérable dans ce travail, en particulier Rodrigo Ibatta, qui a découvert des structures gigantesques autour de cette galaxie. Qu'est-ce qu'ont fait ces équipes ? Ces équipes ont observé la galaxie d'Andromède, et au lieu de faire juste des observations de télescopes amateurs, ils ont posé pendant des heures et des heures pour découvrir les structures les plus faibles, pour découvrir qu'est-ce qu'il y avait dessous. Et en fait, ils n'ont pas trouvé ce qu'il y avait dessous, ils ont trouvé ce qu'il y avait autour. Ce que vous voyez ici, c'est la même image de la galaxie, mais avec des pauses qui sont considérablement plus longues. Et vous voyez que dans l'environnement de la galaxie, il y a énormément de structures. Alors si vous regardez bien en bas et à droite, vous voyez ce qu'on appelle un stream, un courant. Il y a en fait un gigantesque courant d'étoiles qui est aussi grand, voire plus grand que la galaxie, qui sont des étoiles qui retombent dans la galaxie. Un courant géant, ça s'appelle le Giant Stream en anglais, qui a été découvert par Rodrigo Ibatta, qui a aussi d'ailleurs découvert une autre structure géante, qui est un disque épais. Il n'y a pas seulement le disque mince de la galaxie, mais tout autour de ce disque, il y a encore une autre structure, qui est un peu ce que vous voyez dans l'environnement de cette galaxie, qui est un énorme disque épais géant dans cette galaxie. En fait, on découvre un nombre de structures hallucinantes dans cette galaxie. Il y a aussi un anneau de poussière, et plus récemment, on a découvert, dans la partie qui se trouve exactement à l'opposé du Giant Stream, on a trouvé d'autres courants d'étoiles. Toutes ces structures se trouvent dans le halo de la galaxie, et évidemment, la seule façon imaginable de les expliquer, des courants d'étoiles, il faut que ces courants aient été perdus par quelque chose. Donc on a pensé tout de suite à des collisions entre les galaxies. Ce que nous avons proposé plus récemment, et c'est quelque chose de très récent, ça vient juste d'être publié, il y a eu un communiqué de presse la semaine dernière, je crois, c'est que Andromède soit plus simplement né d'une grande collision il y a 5,5 milliards d'années. Alors en fait, les astronomes et les astronomes spécialistes d'Andromède ne doutent pas qu'Andromède soit né d'une grande collision et soit le résultat de ceci. C'est d'ailleurs très bien expliqué dans des revues faites par John Cormandy ou Sidney Vandenberg, qui sont vraiment très spécialistes du sujet. La seule question qui restait complètement entière, c'est à quelle époque ? Alors pourquoi on croyait qu'Andromède, et on était sûr, même avant la découverte de ces courants géants, qu'Andromède avait été formé par fusion de galaxies ? C'était simplement que si vous regardez son bulbe est ce qu'on appelle un bulbe classique, et on ne sait pas former des bulbes classiques, aucune simulation ne peut former un bulbe classique sans collision. Donc on savait qu'Andromède devait être formé comme ça. Par contre, on ne savait pas le dater. Ce qu'on a fait, en fait, c'est de le dater en utilisant justement les courants géants. Et ce que vous allez voir, c'est une des simulations qu'on a utilisées, qu'on a mis en place. On a fait tourner une centaine de simulations. Et vous voyez en fait une galaxie qui a à peu près le tiers de la masse de la galaxie principale, qui donc plonge entre elles et qui forme évidemment des courants d'étoiles, parce que vous voyez ces étoiles, des courants d'étoiles qui retombent en fait sur la galaxie. En fait, grâce à ce type de simulation, on arrive à reproduire justement le Giant Stream, ce fameux courant géant d'étoiles, le disque épais, mais aussi l'ensemble de tous les courants qui ont été découverts dans cette galaxie. L'avantage, évidemment, dans cette problématique, c'est qu'on connaît les âges des courants d'étoiles. On connaît les âges de toutes les structures. Donc grâce à ça, on peut remonter et on peut dater, effectivement, dater quand s'est passée cette interaction. Donc vous voyez, l'interaction a eu lieu il y a à peu près 8-9 milliards d'années. Et puis la fusion a eu lieu il y a à peu près 4,5 milliards d'années, 5 milliards d'années. Un autre succès de ce type de simulation, en radio, l'image du gaz H1 de la galaxie, où on voit un anneau géant, qui évidemment est reproduit par la collision, puisque les collisions de galaxies ont le bon goût de former aussi des anneaux géants. Donc le bilan dans l'univers local, c'est il n'y a pas 100 milliards de galaxies, il n'y en a que 2. On fait avec ce qu'on a. Elles ont eu, évidemment, ces deux galaxies, vous en doutez, dans l'histoire de l'astronomie, dans la façon de comprendre comment les galaxies sont formées, ont un poids considérable, bien entendu. Et en particulier, on pensait, et une des raisons pour laquelle on pensait que la formation des galaxies spirales était relativement une histoire relativement douce, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans le passé et ensuite très peu d'interactions, était évidemment essentiellement dû au fait que notre Voie lactée n'a pas subi de grande fusion, et ça on le sait, depuis 10 à 11 milliards d'années. On était forcément très influencé par notre galaxie dans les années 60. On sait aujourd'hui, et c'est dû à des observations assez récentes et des simulations encore plus récentes, qu'Andromède a eu une histoire au contraire extrêmement mouvementée. Et puis, ce domaine se développe très vite, parce que maintenant l'idée c'est de regarder des objets d'autres galaxies spirales que la nôtre ou qu'Andromède, et d'aller regarder ce qui se passe dans leur halo. Et en fait, on est en train de découvrir, et c'est quelque chose d'assez... une découverte qui est assez majeure, on est en train de découvrir des structures géantes pratiquement partout. Évidemment, il faut faire des pauses très profondes, pas forcément en utilisant des très grands télescopes. Les images que vous voyez ont été réalisées avec des télescopes de 50 à 60 cm. C'est important de le savoir. Ce qu'il faut, c'est avoir une optique excellente et surtout une stabilité remarquable. Le CCD doit être extrêmement efficace, bien entendu. Donc ces objets-là, c'est des objets sur lesquels, évidemment, notre équipe travaille actuellement à essayer de les modéliser. Et puis, évidemment, on peut se poser une question. Il y a deux, dans notre univers local, il y a deux galaxies. Une, clairement, n'a pas subi de grande fusion, en tout cas depuis 10 à 11 milliards d'années, on le sait. Andromède a de fortes chances d'en avoir subi une. On explique vraiment toutes ses propriétés grâce à ça. Vous me direz, il y a une chance sur deux qu'un scénario hiérarchique pour les galaxies spirales fonctionne. Donc la question immédiate qui arrive tout de suite, c'est qui est représentatif Vous avez deux candidats, on fait ça souvent au second tour des présidentielles. Qui est le plus représentatif? Et en fait, là, en science, on peut faire un peu mieux qu'un vote, puisqu'on peut faire des tests. Et on a fait effectivement ce type de test. Et ce que vous voyez ici, c'est un histogramme qui représente... en fait, la masse en étoiles, le contenu en étoiles, les galaxies, et le rayon du disque. En grisé, ce sont les galaxies locales, les grandes galaxies spirales, qui ont la même vitesse de rotation qu'Andromède et que la Voie lactée. Donc ça nous donne un échantillon test. On s'aperçoit que la Voie lactée n'a pas assez d'étoiles par rapport à sa vitesse, ou alors que son rayon est trop petit. Nous vivons dans une galaxie à petit rayon. En fait... si vous combinez ces deux-là, vous allez trouver que notre Voie lactée a un moment angulaire insuffisant. Angulaire plus faible que celle de la moyenne des autres galaxies. Et si vous allez encore un tout petit peu plus loin, vous allez vous apercevoir quand vous allez visiter, et c'est ce qu'ont fait les astronomes, et vous allez visiter, en fait, vous allez mesurer les étoiles à l'extérieur d'une galaxie, du halo, vous allez trouver qu'il y a très peu d'étoiles, que ces étoiles sont toutes vieilles et très peu métalliques. Dans Andromède, ce n'est pas du tout le cas. Et dans c'est ce qu'on trouve de plus en plus, dans la majorité des galaxies spirales, ce n'est pas le cas. Donc il est tout à fait envisageable, et nous avons publié une étude là-dessus, effectivement, que notre Voie lactée soit en fait une galaxie exceptionnelle. Alors je vais conclure. Bon, la première chose qui est toujours exceptionnelle dans le domaine dans lequel je travaille, c'est les chiffres. 100 milliards d'étoiles par galaxie, 100 milliards de galaxies dans l'univers. On est toujours confronté au problème de la masse invisible, son origine, son existence même, est mise en question. On peut expliquer maintenant la majorité la formation des galaxies, y compris donc dans un modèle de matière sombre, peut s'expliquer simplement par le scénario hiérarchique, sans avoir besoin de faire appel à de nouvelles théories. Et puis notre Voie lactée qui semble avoir échappé à de nombreuses fusions, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on est là? J'en sais rien. C'est un peu des grandes questions qu'on peut se poser. Je vous remercie beaucoup.
C'était François Hammer, astronome à l'Observatoire de Paris-Meudon. Il s'exprimait au Bureau des Longitudes sur l'origine des galaxies spirales. Restez à l'écoute de nos retransmissions et téléchargez dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Académie dans les émissions En colloque, rubrique Science. Les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, vous pouvez vous connecter sur le site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci et à bientôt sur Canal Académie.